France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est notre 18e chapitre. Le Mexique, les charros et l'Espagne au cœur. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Mexique qui, au milieu des années 30, acquiert une image internationale très forte. Ne serait-ce que par son cinéma, qui bat des records d'audience en Espagne et en Amérique latine. On peut dire que l'âge d'or du cinéma mexicain a commencé en 1935 avec la sortie du film de Fernando de Fuentes, Vámonos con Pancho Villa, Rejoignons Pancho Villa, le premier film épique d'envergure du cinéma national. Le Mexique devient cette année-là la première cinématographie de langue espagnole. Fernando de Fuentes réalise ensuite son œuvre la plus populaire, plutôt nationaliste et conservatrice, Allá en el Rancho Grande, là-bas dans la Hacienda, qui tranche complètement avec sa trilogie sur la Révolution. Et ce sera l'un des plus grands succès du cinéma mexicain. Un film qui exalte un univers paysan, idéalisé, déconnecté de la réalité, créant une sorte de folklore très apprécié des spectateurs. Et cela, en cette année 1936, où le président Cárdenas vient de lancer une réforme agraire de grande envergure. Le scénario magnifie le personnage du charro, comme jamais auparavant au cinéma. Le charro, c'est le propriétaire terrien, le cavalier, comme l'était aussi d'ailleurs Emiliano Zapata, qui portait lui aussi le même costume du charro, la veste chamarrée, le foulard de couleur, le pantalon étroit et le large sombrero. Mais sans l'exubérance spectaculaire des accoutrements des personnages du film du Rancho Grande. L'histoire est banale. Le propriétaire et son contremaître sont amoureux d'une jeune paysanne. Malgré la fortune que lui propose le propriétaire, celle-ci reste fidèle à son amour pour le contremaître. C'est le ténor Tito Guisar qui incarne ce personnage et qui interprète la chanson qui a donné son titre au film « Allá en el Rancho Grande ».
Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, y pues qué te decía, manito, te voy a hacer tus calzones, ¿cómo? Como los que usa el ranchero, seguro mi cuate, te los comienzo de lana, y luego chaquita linda, pues yo volé, te los saco. Había una rancherita que alegre me decía, ¿y qué te decía mi cuate? Te voy a hacer tus calzones, vamos, como los que usa el ranchero, seguro mi cuate, te los comienzo de lana y luego, chatita linda, te los saco. Thank you. rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Y pues qué te decía, manito, por besar tus lindos ojos, yo no sé lo que darías, es linda, preciosa, encantadora, lindísima mujercita, nada más seré para ti. ¡Ay!
Le ténor Tito Guissard, accompagné par un orchestre de mariachis. En créant le personnage du charro dans les films populaires, le cinéma mexicain post-révolutionnaire imite ce que faisait déjà le cinéma d'Hollywood avec le cow-boy des westerns. Le charro, propriétaire terrien, devient un personnage de fiction, joyeux, bravache, souvent issu des classes populaires et plus proche du cavalier campagnard, que de l'image plutôt sévère du véritable charro, qui était issu en général des classes les plus fortunées. On a souvent dit que le charro tel qu'on le voit encore aujourd'hui au Mexique est une invention du cinéma. C'est celui qu'on a pu voir sur l'affiche du Chanteur de Mexico, l'opérette de Francis Lopez, que le Théâtre du Châtelet a présenté à Paris en 2006. Un fringant cavalier vêtu d'une veste courte, d'une lavalière en général de couleur vive et d'un pantalon noir ajusté au plus près avec sur les côtés une enfilade de boutons d'argent, sans oublier le sombrero et les bottes à talons. Mais cette charro, sent-il exister vraiment ou est-ce une invention du cinéma? L'architecte Fernando González Gortázar nous répond.
Sí existieron en la realidad. En los altos de Jalisco, todavía el día de hoy, hay mucha gente.
Oui, ils ont vraiment existé. Dans les montagnes de l'état de Jalisco, il y a encore aujourd'hui des gens qui s'habillent en charros avec le pantalon étroit. Mais cette histoire de boutons en argent et la petite veste cintrée, le foulard autour du cou, ça c'est une invention du cinéma. En vérité, c'est une réalité que le cinéma a sophistiquée. Le cinéma a créé des mythologies partout dans le monde. En ce qui concerne les charros, eh bien, il y avait au XIXe siècle ce qu'on appelait les chinacos. C'étaient des paysans cavaliers qui s'habillaient d'une manière similaire aux charros, avec le pantalon ouvert sur le côté. Peu à peu, ils sont devenus les charros. Et le sombrero à large bord, c'était quelque chose d'indispensable. Comme il y avait des taillis épineux, parfois très denses, et qu'il fallait traverser, quand on arrivait à ces taillis épineux, eh bien, il suffisait de courber la tête et le sombrero écartait les branches. C'est comme les jambières de cuir. Elles étaient aussi indispensables.
Lo mismo las chaparreras eran también indispensables.
En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, te traigo, mi bien amada, las dulzuras de mi canto. Hallarás junto a tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Y en la mañana cuando el sol despierta, revive en mi alma la esperanza muerta. Revive en mi alma la esperanza muerta. Ay, 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 como la ilusión. Triste es la vida mía, que llora por un amor. Mis campos, mis flores se mueren sin sol. Canito sin techo, ay, cómo extraña tu ausencia.
Dime, chinita, que te he hecho. Vuelve a buscar mi querencia, ven pronto, ranchera, pues quiero tu amor. Ay, qué cielo tan azul, cuánta estrella estoy mirando. Ay, qué cielo tan azul, cuánta estrella estoy mirando. Ay, qué corazón tan duro tiene la que estoy amando. Nomás me dice que sí, pero no me dice cuándo. Ay, qué corazón tan duro tiene la que estoy amando. Nomás me dice que sí, pero no me dice cuándo.
El amanecer ranchero, l'aube dans le rancho, dans la hacienda, interprété par le baryton Jorge Negrete, qu'on a appelé le chanteur Charro, car il a plus que tout autre incarné ce personnage au cinéma. Le film de Fernando de Fuentes connaît un succès sans précédent, d'autant que la musique et le folklore national y jouent un rôle primordial avec ce qu'il faut de danse, de mariachis, de combats de coqs et de courses de chevaux. Des traditions sans doute trop méprisées jusque-là et que le cinéma réhabilite. C'est dans ce contexte, disons, nationaliste, qu'en cette année 1936, le compositeur Carlos Chavez transcrit pour orchestre symphonique une chaconne de Buxtehude. Un peu dans la tradition qu'avait initiée Léopold Stokowski aux États-Unis quand il transposait des œuvres de Bach pour grand orchestre symphonique, mais avec une différence de taille. Pour Carlos Chavez, c'est un vibrant hommage à la musique ancienne du Mexique, notamment à la chaconne et à la sarabande, ces danses populaires qui seraient nées dans son pays, avec une chorégraphie vive, espiègle et souvent licencieuse, dont on a des témoignages dès le XVIe siècle, notamment en Espagne où on la danse, dans les fêtes populaires, et où l'écrivain Góngora l'inclut dans ses poèmes. Miguel de Cervantes, dans ses nouvelles exemplaires, la décrit aussi avec humour. C'est dans la danse de la chaconne que se trouve la belle vie, dans cette mulâtresse venue des Indes, dont on dit qu'elle a commis tant de sacrilèges. Chez Chavez, la danse est plus posée. D'ailleurs, on dit au Mexique que si la chaconne est devenue si lente, c'est qu'en Europe, il fallait bien que ce balourde roi de France parvienne à la danser. Carey Lynn Wilson à la tête de l'orchestre symphonique Simón Bolívar de Caracas dans la Chaconne de Carlos Chávez. En 1936, l'Espagne est plus que jamais présente dans le cœur des Mexicains. La situation est très préoccupante dans le pays, car malgré le succès du Front populaire aux élections de février, on parle de plus en plus de complots et de coups d'État. C'est dans cette atmosphère délétère que la plus grande comédienne espagnole, Margarita Xirgu, prépare la tournée latino-américaine qu'elle doit débuter avec sa compagnie à Cuba et au Mexique. En janvier, elle est à Bilbao avec Federico García Lorca pour un récital de poésie. Consciente de la tragédie qui s'annonce, elle insiste auprès du poète pour qu'il l'accompagne. Lorca lui promet de la rejoindre au Mexique. Le 31 janvier, elle quitte Santander pour La Havane. Elle y crée sa pièce « Yerma » et elle lui envoie sans arrêt des télégrammes, lui rappelant sa promesse. Le mois d'avril, elle est à Mexico avec ses comédiens, mais aucune nouvelle de Lorca. La troupe se présente au Palais des Beaux-Arts avec le même répertoire qu'à Cuba, dont plusieurs pièces du siècle d'or espagnol. Au Mexique, Margarita reconnaît sur les affiches des cinémas le chanteur flamenco Angelillo, principal interprète du film « La fille de Juan Simón » qui connaît au Mexique un aussi grand succès qu'en Espagne. Il est inspiré d'une ancienne ballade qui raconte l'histoire d'un fossoyeur dans un petit village qui doit enterrer sa propre fille, victime d'un amour tragique. Sur l'affiche, Margarita Xirgu voit aussi le nom de Luis Buñuel, le producteur du film. Et elle ne sait pas encore qu'elle va bientôt le croiser sur les chemins de l'exil, tout comme Angelillo, qui interprète dans le film la chanson de l'amant injustement emprisonné qui ignore que sa fiancée est morte de douleur.
Cuando acabé mi condena y me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó. Y él mismo cavó la fosa murmurando. Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro el asado. Los amigos le preguntan de dónde viene Juan Simón y todos le preguntaban de dónde viene Juan Simón. Enterrado y vengo de enterrar mi corazón. Soy enterrado y vengo, yo soy enterrado y vengo de enterrar. corazón.
Angelillo, dans cette milonga flamenca. Entre-temps, les choses ont empiré en Espagne. Début juillet 1936, à Madrid, la situation est explosive. Federico García Lorca est persuadé qu'il sera plus à l'abri dans sa famille, à Grenade, où il arrive le 14 juillet. Hélas, une semaine plus tard, la ville est aux mains des franquistes. Lorca est arrêté le 16 août et exécuté quelques jours plus tard. Dans le monde entier, c'est la consternation. Au Mexique, qui soutient officiellement la République, c'est un deuil quasi national. Le compositeur Silvestre Revueltas, qui s'est inscrit à la Ligue des écrivains et artistes révolutionnaires, est totalement bouleversé. Il aime beaucoup la poésie de Lorca et il met immédiatement en chantier ce qui sera la première œuvre orchestrale de concert composée en hommage au poète assassiné. Homenaje a Lorca. Un hommage créé le 14 novembre au Palais des Beaux-Arts. Une plainte déchirante à la trompette parcourt l'œuvre qui débute par un baile, une danse de bastringue aux allures grinçantes, une danse de mort ou plutôt de squelette, comme dans les caricatures mexicaines. Eduardo Mata à la tête du New Philharmonia Orchestra dans le baile de l'hommage à Lorca de Silvestre Revueltas. À Mexico, le pianiste et chanteur populaire Agustín Lara, fasciné par l'Espagne qu'il rêve de connaître, est lui aussi bouleversé par l'exécution de Lorca. Il compose alors son Lamento espagnol. Vierge de la Paloma, et toi, Vierge de la Macarena, vos clairons et vos guitares se sont tus. Pauvre patrie, qu'ont-ils fait de toi?
Virgen mía de la Paloma, ya no suenan los palillos. Virgen de la Macarena, ya no cantan.
la torre de la Giralda. Así se me está cayendo la pobrecita de mi alma, la pobrecita de mi alma. Pobre España, mantoncito ensangrentado. Pobre patria, mira cómo te han dejado. Toritito, tus altares han quemado. Pobre España, mira cómo se han dejado. Torititos, tus altares han quemado. Pobre España, muertecita te has quedado.
Aux États-Unis, les associations se mobilisent pour récolter des fonds pour la République espagnole en guerre. En 1937, beaucoup d'Américains rejoignent les brigades internationales et les contacts entre les USA, l'Espagne et le Mexique sont de plus en plus étroits. Le président Cárdenas est le premier chef d'État à soutenir officiellement les combattants républicains. Un des grands militants nord-américains, l'écrivain et compositeur Paul Bowles, grand voyageur, familier de l'Afrique du Nord, admire profondément Lorca. Il est proche de la gauche américaine et la révolution mexicaine l'a passionné. En 1937, sur le conseil de Copland, il décide d'aller au Mexique pour rencontrer le compositeur Silvestre Revueltas. À la mi-mars 1937, sa femme Jane, lui-même et un groupe d'amis nord-américains prennent à New York un autocar Greyhound pour Baltimore, la Nouvelle-Orléans, Houston, d'où ils rejoignent la ville frontière mexicaine de Laredo. Une semaine plus tard, ils arrivent à Monterrey, où ils montent dans un autocar délabré qui lui rappelle ceux du Maghreb et qui les conduit à Mexico.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré. Thank you.
Le pianiste américain Bennett Lerner interprétait deux huapangos mexicains de Paul Bowles. L'écrivain et ses amis s'installent dans un hôtel au centre de la capitale. Aaron Copland, raconte Bowles dans ses mémoires, m'avait remis un petit mot pour Silvestre Revueltas en me disant que l'homme et aussi sa musique me plairaient. J'ai alors traversé le Zócalo, la grande place de la cathédrale, pour me rendre au conservatoire où il enseignait. Je suis arrivé au beau milieu d'une répétition où il dirigeait son hommage à García Lorca et j'ai été tout de suite frappé par la sonorité lumineuse de l'orchestre. Les qualités de l'homme m'ont sans doute impressionné encore plus que sa musique. Ses traits étaient vraiment d'une grande noblesse. Son visage avait une expression d'une incroyable pureté. Malgré la grande cicatrice causée par un coup de couteau qui lui avait balafré la joue. En 1937, Revueltas avait connu, grâce à la Ligue des artistes révolutionnaires, le poète cubain Nicolas Guillén, et il venait de composer sur ses vers le superbe Caminando. Je marche sans but, sans argent, et je suis triste. Celui qui me cherche est loin, et plus loin encore est la personne qui m'attend. Caminando de Silvestre Revueltas, Lourdes Ambriz soprano, Jesús Suaste bariton, La Camerata de las Américains, dirigée par Enrique Arturo Dimecque. C'est peu après cette rencontre avec Bowles que Revueltas quitte le Mexique pour l'Espagne en guerre, en compagnie d'un groupe d'amis de la Ligue antifasciste, dont le très jeune écrivain Octavio Paz et son épouse. Le 14 juin 1937, ils rejoignent New York où ils embarquent pour Le Havre. Ils arrivent à Paris le 6 juillet, ils y restent une semaine avant de prendre le train pour Barcelone et de descendre à Valence, unique manière de rejoindre Madrid, où ils arrivent le 21 juillet. 4 jours plus tard, Revueltas part à la rencontre de soldats mexicains qui ont rejoint sur le front de Pozo Blanco à Cordoue des combattants des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et d'Irlande au sein de l'héroïque brigade Lincoln. Début septembre, après des concerts à Valence, le groupe est à Madrid à quelques kilomètres seulement du front. Revueltas participe à tous les événements culturels, aux meetings, il parle à la radio, donne des conférences et dirige 2 concerts importants, dont la création en Espagne de son hommage à Lorca. Les musiciens, a-t-il raconté, ont interprété mes œuvres comme si c'était la dernière fois qu'ils allaient jouer. Beaucoup d'entre eux, et surtout les plus jeunes, allaient partir au front quelques jours plus tard. Le 2e mouvement de cet hommage est un lamento de deuil où la trompette chante sa plainte déchirante sur un tapis de cordes en sourdine, rythmé par l'ostinato du piano et par des appels tragiques lancés au tuba comme les conques marines des marches funèbres aztèques. Le dernier mouvement de l'hommage à Lorca est une feria, une fête énergique et joyeuse, comme la fête des morts, quand les Mexicains savent la défier en chantant et en dansant. Thank you. Eduardo Matar et le New Philharmonia Orchestra dans l'hommage à Lorca de Silvestre Revueltas. Le 2 octobre, le groupe des Mexicains est à Barcelone. Les musiciens de l'orchestre de Pablo Casals, que le violoncelliste avait dissous au début de la guerre, se réunissent à nouveau au Palau de la Música pour interpréter des œuvres de Revueltas. À Barcelone, écrit le compositeur mexicain, la grande ville nous accueille au son des canons. Les Ramblas sont pleines de gens, et on pense qu'on est loin de la guerre. Mais quelques jours plus tard, nous avons vu les décombres de l'école qui avait été détruite et où on dégageait les corps calcinés des enfants. Et le théâtre où nous allions jouer était juste à côté, impassible. Puis c'est notre départ d'Espagne, avec l'émotion d'avoir accompli notre devoir. Puis la frontière et l'adieu définitif, mais vraiment pour toujours. Je tourne les yeux vers cette Espagne tant aimée. Je tends les bras, les yeux humides, une dernière fois, en quittant ce pays qui nous est si cher. Et nous levons tous les poings. À son retour d'Espagne, Revueltas met en musique une berceuse de Federico García Lorca. C'est une musique déchirante. Endors-toi, mon œillet. Le cheval ne veut pas boire. Endors-toi, mon rosier. Le cheval se met à pleurer.
Thank you.
La soprano mexicaine Irma González, l'Orchestre Philharmonique de Mexico dirigé par Fernando Lozano dans cette berceuse de Lorca mise en musique par Silvestre Revueltas. Après sa rencontre avec le compositeur, Paul Bowles était parti visiter l'isthme de Tehuantepec dont on lui avait vanté la beauté. Je m'attendais, a-t-il raconté, à trouver un paysage rappelant plus ou moins l'Afrique, avec disséminés ci et là de petites villes de style espagnol. Mais la campagne ne m'a pas évoqué l'Afrique du Nord, et les villages, en dépit de leur grise andalouse, ne m'ont pas fait songer à l'Espagne. La végétation était comme pétrifiée. Cependant, les formes qu'elle avait adoptées semblaient autrement plus hostiles que celles d'une formation minérale. À Tehuantepec, il tombe en pleine célébration du 1er mai 1937 et se mêle à la manifestation où les communistes purs et durs brandissent des pancartes « Mort à Trotsky ». Trotsky, que le président Cárdenas avait accueilli cette année-là au Mexique. Paul Bowles doit alors retourner aux États-Unis pour la création d'un de ses ballets. À New York, il se passionne de nouveau pour la poésie de Lorca et il composera plusieurs œuvres sur ses textes. Mais le Mexique le hante aussi. Et il retournera plus d'une fois en Amérique latine et s'en inspirera souvent dans ses œuvres pour piano. Volcan Orosi du Costa Rica et les terres irriguées du Mexique ont inspiré à Paul Bowles ses pièces pour piano, interprétées ici par Bennett Lerner. En 1936, l'exode espagnol a commencé et le Mexique accueille de plus en plus de réfugiés. Cette année-là, le chanteur flamenco Angelillo républicain convaincu, profite d'un concert à Oran, en Algérie, pour fuir l'Espagne. En janvier 1938, il est à La Havane pour un récital au théâtre Payeret avant de se rendre au Mexique. On l'écoute dans une autre chanson du film La fille de Juan Simón, Radio Cuba, dans une scène qui se déroule justement à La Havane. Une chanson sur un rythme de danzón tellement populaire en Espagne que les soldats l'écoutaient et la chantaient des deux côtés du front durant la guerre civile.
Los negritos son de Cuba, los de Cuba son cubanos, qué cosa barca me dio a una negra seguir, a la barca me dio. Quise reincidir, socorro pidió y negrito me di. A una negra ves un banco y la sala oscura estaba y de pronto dio la luz y a la panchita vio el blanquito hizo full. De miedo tembló, socorro pidió y corriendo salió. Por su calor la panchita me da. Por su calor pone siempre a bailar. Si tu corazón a una negra le da, ya puedes ir en busca del doctor Tota y te acabará. Por su calor yo me voy a abrazar. Por su calor quien me va a refrescar. Es mucha razón para un hombre solito, tan delgadito como un servidor.
Por su calor la pancita me da.
Bien, muy bien.
Por su calor con el
tiempo a bailar. Si tu corazón a una negra le da, ya puedes ir en busca del doctor Tota y te acabará.
Por su calor yo me voy a abrazar.
Muy bien.
Por su calor que me va a refrescar.
Es mucho danzón para un hombre solito, tan delgadito como un servidor. Tienen las cubanitas una ventaja grande, que como son negritas, ay, no se les nota luego. No casi como un negro, mujer blanca que luego, cuando pasen los meses, ay, te asustarás. Ya me voy, a la busca de una blanca natural y colosal.
C'est avec la voix du chanteur flamenco Angelillo que nous nous disons au revoir, avant de nous retrouver bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.